Alors, on va commencer notre 11e leçon, qui se trouve être la deuxième partie de ce qu'on avait débuté la semaine dernière. Donc, la crainte de Dieu, on avait dit qu'il y avait 42 bénéfices, bénédictions et récompenses que Dieu dit dans ses Saintes Écritures qu'il rattache à la crainte de Dieu. On ne reprendra pas toutes les 21 la semaine dernière, mais on va tout simplement commencer où on était rendu, à la 22e. Donc, on va faire la 22e ce soir et on va essayer de se rendre jusqu'au bout pour terminer cette leçon-là, de savoir qu'est-ce que Dieu dit qu'il va donner à ceux qui le craignent. Et moi, je me dis, si on lit ces 42 choses-là, puis ça nous laisse indifférents, à quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans nos vies. Alors, la 22e bénédiction que le Seigneur dit qu'il va donner à ceux qui le craignent, c'est la direction divine. Combien de fois ça arrive dans nos vies où on arrive devant un événement, on se demande, je devrais-tu aller là, je devrais-tu aller là? La direction divine, Dieu dit qu'il va bénir, il va indiquer par quel chemin on se doit d'aller si on le craint. Autre chose, il nous dit qu'il va nous donner le bonheur. Si vous regardez aujourd'hui, tout le monde court après le bonheur. Mais la seule chose, c'est qu'il n'utilise pas le bon moyen. Après ça, le Seigneur nous dit qu'il va nous donner, ça c'est tout dans la même chose, dans le 22e, une postérité bénie. C'est bon d'entendre ça parce qu'on a des enfants. Une postérité, normalement, c'est nos enfants. On désirerait qu'ils connaissent le Seigneur comme nous. Et le Seigneur dit qu'il va donner une postérité bénie à ceux qui le craignent. Et aussi, il va plus loin que ça, mais la première fois que j'ai compris ce verset-là, j'ai vraiment... c'est quelque chose de tellement extraordinaire que c'est les communications intimes avec Dieu. Tu sais, quand on parle qu'on est intime avec quelqu'un, si je dirais... Je suis très intime avec, je sais pas moi, le premier ministre du Canada. On se parle comme si on serait des grands amis. L'intimité avec quelqu'un, ça veut dire qu'on communique. Dieu dit que celui qui le craint, il va avoir des communications intimes avec lui ou elle. Ça, là, ça dépasse de beaucoup notre capacité de compréhension. Et dans le psaume 25 au verset 14, c'est là qu'il nous dit ça. Il dit, « Qui est l'homme qui craint l'Éternel? Il lui montrera la voie qu'il doit choisir. » Donc, ce qu'on disait au début, la direction. Ensuite, ça dit dans le verset 13, « Son âme logera dans le bonheur et sa postérité possédera la terre. » Et le verset 14, c'est le verset qui est extraordinaire. La première fois que j'ai pris conscience de ça, je vous le dis, je me suis arrêté puis je dis, Plus on comprend qui est Dieu, plus on comprend qui on est, que Dieu te fasse la promesse qu'il va avoir des communications intimes avec toi, c'est pas une petite affaire. Alors ça dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne la connaissance. L'expression du verset 14 qui dit l'amitié, ça a été traduit différemment, dépendamment des versions, parce que c'est difficile à traduire. Elle a été traduite, par exemple, dans Osterval, au lieu de dire l'amitié de l'Éternel, on a dit le secret de l'Éternel. Donc, ça implique une communication qu'il ne donnera pas à d'autres. Même s'ils sont chrétiens, il va le donner à ceux qui le craignent. Par exemple, dans la version Sommeur, ça dit « L'Éternel confie ses desseins. » Ses desseins, c'est ses intentions à quelqu'un qui le craint. Après ça, la familiarité, il y a d'autres versions qu'il traduit avec la familiarité et d'autres versions qu'il traduit avec l'intimité. Alors, la profondeur de cette expression-là dépasse de beaucoup, vraiment, notre capacité de compréhension. Elle s'avère d'une hauteur que seule la grâce et l'expérience peut révéler. Charles Spurgeon, c'était pas le deux de pique des prédicateurs, c'était un des plus grands prédicateurs que la Terre ait porté de tous les temps, puis reconnu par beaucoup de théologiens et de prédicateurs comme étant la personne qui avait un talent fou pour prêcher. Et lui, quand il a prêché sur ce verset-là, voici ce qu'il a dit. « Les esprits charnels ne peuvent saisir ce qui est promis. » Et même les croyants ne peuvent l'expliquer avec des mots, parce que c'est une chose qui doit être expérimentée. L'idée semble que le Seigneur révélera d'une façon particulièrement intime, se révélera à ceux qui le craindront. Ses secrets, ses desseins, son alliance. Alors le croyant qui craint Dieu recevra une compréhension hors du commun de la profondeur de l'alliance divine, de sa richesse, de son antiquité, de sa justice, de sa plénitude, de sa générosité, de son excellence et de sa perfection. Alors, ce n'est pas une petite promesse. Et Charles Spurgeon disait encore, concernant le verset 14, « Celui qui ne comprend pas la signification de ce verset ne l'apprendra pas dans un commentaire qu'il regarde à la croix, parce que le secret se repose là. » C'est intéressant. Donc, autrement dit, la communication intime avec Dieu, ce n'est pas un petit cadeau que Dieu te fait, là. Il te distingue des autres hommes, même sauvés, pour te révéler des choses qu'il ne révèle pas aux autres. C'est une compréhension de ses desseins, de sa personne, et une communication qu'il n'accorde pas aux autres. C'est vraiment extraordinaire, ça. Et le 23e, c'est les bontés de Dieu. On sait que Dieu est bon, infiniment bon, selon les Écritures. Dans le psaume 31, les versets 19 et 20, ça dit « Oh, qu'ils sont grands, les biens que tu as réservés pour ceux qui te craignent, que tu répands aux yeux des fils des hommes sur ceux qui se retirent vers toi. Tu les caches dans le secret de ta face, loin des complots des hommes. Tu les abrites dans ta tente contre les langues qui les attaquent. » Même une protection. Dans le fond, on sait que les êtres humains peuvent nous attaquer avec leur langue et nous faire très mal. Ça dit ici que tu les caches dans le secret de ta face, il parle de ceux qui craignent Dieu, et loin des complots des hommes, et tu les abrites dans ta tente contre les langues qui les attaquent. C'est spécial, ça aussi, là. 24e bénédiction, la force de s'éloigner du mal et l'apaisement de nos ennemis. Proverbes chapitre 16, versets 6 et 7. L'iniquité sera expiée par la miséricorde et la vérité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Donc, ça nous donne la puissance et la force de se détourner du mal. Et dans le verset 7, ça dit « Quand l'Éternel prend plaisir aux voix d'un homme, il apaise envers lui même ses ennemis. » Ça aussi, c'est spécial. Alors, quand on regarde depuis le début, là, si on les lit les 42 d'un coup sec, là, c'est comme, c'est presque pas croyable. Là. Comment le Seigneur est bon envers ceux qui le craignent. La 25e, c'est la connaissance spirituelle. Proverbe 1, verset 7, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les fous méprisent la sagesse et la discipline. » Bien sûr, ici, quand on dit le commencement de la science, on ne parle pas de science humaine. Là. On parle de la science, de la connaissance de Dieu. Alors, ça dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement vraiment de la connaissance du Seigneur. 26e, ça dit que la sagesse, il va nous accorder la sagesse si on le craint, et il va nous accorder aussi une longue vie. Pour moi, vous devez craindre l'Éternel. Ça dit dans Proverbe 9, versets 10 et 11, « Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est le discernement. Car par moi seront multipliés tes jours, et des années s'ajouteront à ta vie. » C'est Dieu qui le dit. Verset 27, « Une source de vie et un évitement des pièges de la mort. » Proverbe 14, verset 27, « Crainte de l'Éternel, source de vie pour s'écarter des pièges de la mort. » Et dans le contexte, ça parle de la crainte de Dieu. Verset 28e bénédiction, une adoration exaltée. Le mot exalté, ça veut dire une adoration où notre esprit s'élève plus haut que d'habitude. Exalté, ça veut dire très haut. Alors, le Seigneur nous dit qu'il va nous donner une adoration qui va être exaltée. Psaume 5, verset 7, Mais moi, par l'abondance de ta grâce, j'entrerai dans ta maison, je me prosternerai vers le palais de ta sainteté dans ta crainte. Un accès au salut. 29e, psaume 85, verset 9. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre terre. 30e, la compassion de Dieu. Tu sais, quand on souffre, on aime ça voir quelqu'un qui est autour de nous puis qui a compassion de notre souffrance. Mais le Seigneur, il nous dit que quand on le craint, il va y avoir une plus grande compassion sur nous. Alors, ça dit dans le psaume 103, versets 10 à 14, « Il ne nous a pas fait selon nos péchés et ne nous a pas rendus selon nos iniquités. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande sur ceux qui le craignent. Il a éloigné de nous nos iniquités, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Comme un père est ému de compassion envers ses enfants, l'Éternel est ému de compassion envers ceux qui le craignent. Car il connaît de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous ne sommes que poussière. » 31e, le perfectionnement dans la sanctification. Autrement dit, comme chrétien, on se doit de... Le Seigneur a dit, « Soyez parfaits comme mon Père céleste est parfait. » Pour arriver là, on a du chemin à faire. On a beaucoup de chemin à faire. Mais le Seigneur nous dit que si on le craint, il va nous donner de se perfectionner continuellement dans la sanctification. 2 Corinthiens, chapitre 6, les versets 17 et 18, et le premier verset du chapitre 7. « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. » Et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai. Et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc bien aimé de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La 32e. La soumission scripturaire les uns aux autres. Oh, un mot pas très populaire de nos jours, la soumission scripturaire les uns aux autres. Éphésiens, chapitre 5, versets 21 à 25. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos propres maris, comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré. Alors, le contrat du mari est élevé aussi. Il faut qu'il aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et là, il y a matière à réflexion. Hébreux, chapitre 13, verset 17. « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela vous serait préjudiciable. » Je ne sais pas si on comprend ce que vous êtes en train de dire, là, le verset, ce qu'il dit. Ça dit que les personnes qui sont dans une assemblée se devraient d'obéir au pasteur, au conducteur ou à l'ancien. Parce que ça dit, car il veille sur vos âmes, devrait en rendre compte à Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est la fin. Afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. Parce que si on demande des choses aux gens et que les gens n'obéissent pas, ça nous fait gémir. Gémir, ça veut dire que ça nous attriste au bout. Et ça dit, car cela vous serait préjudiciable. Autrement dit, ça va se retourner contre toi. Préjudiciable, ça veut dire... Si tu ne le fais pas, ça va se retourner contre toi. Il y a quelque part, quoi à faire réfléchir ici. Aujourd'hui, la question de la soumission, là, il y était un temps que ça marchait beaucoup. Là. Les gens respectaient les pasteurs. Mais à cette heure, je vous dis que ça a baissé pas mal. Mais c'est pas moi qui le demande, c'est Dieu. Alors, dans le chapitre 28 du livre de Deutéronome, le Seigneur fait des promesses de bénédiction à son peuple. Elles sont, cependant, conditionnelles à leur obéissance et à la crainte de Dieu. Alors, on va commencer par les regarder. Le Seigneur a dit qu'il donnerait à son peuple Bien entendu, dans Deutéronome, il parlait des Juifs. Mais la Bible s'applique toujours aussi, non seulement aux Juifs, mais aux chrétiens également. Dans Deutéronome 28, verset 1 et 2, ça dit: Or, il arrivera, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, que l'Éternel ton Dieu te donnera la prééminence sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et t'arriveront parce que tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et là, il y en a tellement que Jésus est divisé, parce que si tu prends le passage, il commence Deutéronome 28, il part du verset 3, puis il va jusqu'au verset 14. Mais si tu coupes les différentes bénédictions qu'il donne à l'intérieur du passage, il va dire, par exemple, qu'il va te donner du succès dans les villes et dans l'agriculture. Dans Deutéronome 28, verset 3, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Quelqu'un qui obéit à l'Éternel, ça va bien aller dans sa vie, peu importe son métier. Et la même chose pour celui qui est cultivateur, le Seigneur va bénir incroyablement. Alors, la 35e, la bénédiction de tes enfants et de la nourriture et du bétail. Dans Deutéronome 28, versets 4 à 5, ça dit: Béni sera le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol et le fruit de ton bétail, la portée de tes vaches et de tes brebis. Béni sera ta corbeille et ta huche. 36e, il dit qu'il va te donner de la protection et de la puissance militaire contre tes ennemis. Versets 6 et 7. Tu seras béni dans ton entrée et tu seras béni dans ta sortie. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et par sept chemins, ils s'enfuiront devant toi. Quand vous allez lire l'Ancien Testament complet, là, quand on le fait, là, on se rend compte que quand le peuple de Dieu était obéissant au Seigneur, il était toujours victorieux militairement. Et quand il était désobéissant, les nations alentour étaient toujours victorieuses sur eux. Mais l'important de saisir ça. Mais les mêmes principes s'attachent encore à nous. Et dans le verset 37, il parle de récolte abondante. Deutéronome 28, 8. L'Éternel commandera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras la main. Et il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et à 38e, un peuple consacré au Seigneur. L'Éternel t'établira pour lui être un peuple consacré, comme il te l'a juré, parce que tu garderas les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et tu marcheras dans ses voies. 39e, le respect des peuples de la terre. Autrement dit, pourquoi aujourd'hui les gens autour des chrétiens ne nous respectent plus beaucoup? Parce qu'on ne craint pas l'Éternel. Quand on craint l'Éternel, ça l'amène le respect des gens autour de nous. C'est ça que le verset 39 dit. Et tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est proclamé sur toi et ils te craindront. 40. Une grande prospérité dans tous les domaines. Deutéronome 28, 11. Et l'Éternel, ton Dieu, te fera abonder en biens, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. 41e, un travail béni, la pluie appropriée et la liberté des dettes. Ça se dit dans Deutéronome 28, 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux, pour donner à ta terre la pluie en sa saison et pour bénir toutes les œuvres de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Alors, il y a beaucoup, là. Et 42e, un leadership et une obéissance qui va honorer Dieu. Dans les versets 13 et 14, ça dit: L'Éternel te mettra à la tête des peuples et non à leur queue. Tu seras toujours en haut, jamais en bas, quand tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui d'observer et de pratiquer. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche d'aucune des paroles que je vous commande aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux pour les servir. Alors, quelques applications. La première, examinons-nous honnêtement par rapport à notre degré de crainte de Dieu dans nos vies, dans notre vie conjugale, dans notre vie familiale, dans nos relations avec les gens autour de nous, dans notre travail, dans nos entreprises et dans nos finances. La crainte de Dieu devrait se refléter dans tous les domaines de nos vies, sans aucune exception. Alors, mieux, parce que si on se dit « examinons-nous », on est rapide pour se dire « ça va pas pire, ça va pas pire ». Mieux, plaidons avec le Seigneur qu'il nous sonde. Parce que si tu demandes au Seigneur qu'il te sonde, ça ne fera pas le même ouvrage que de t'examiner toi-même. C'est plus profond, c'est plus complet, et c'est plus large. Alors, plaidons avec le Seigneur qu'il nous sonde pour une évaluation à son regard de flamme et à son regard omniscient. N'ayons pas peur de demander ça au Seigneur. Seigneur, sonde-moi dans tous les domaines de ma vie. Montre-moi là où j'ai des manquements par rapport à la crainte de Dieu. Et si tu lui demandes ça, ça c'est sûr que ça correspond à sa volonté. Quand on demande quelque chose qui correspond à sa volonté, il dit qu'il va nous écouter, puis il va nous exaucer. Deuxième, confessons humblement notre manque de zèle et implorons le Seigneur de nous accorder la grâce de croître dans sa crainte et de nous donner d'utiliser avec diligence et constance tous les moyens de grâce qu'il a mis à notre disposition. Là, moi, je vous dis quelque chose. Je peux vous témoigner avec, sans aucune crainte de me tromper, qu'aujourd'hui, les chrétiens n'utilisent pas tous les moyens de grâce qui sont mis à leur disposition. Et ça, c'est grave. Et quels sont ces moyens-là? Bien entendu, la parole de Dieu, qui comprend sa lecture, son écoute, sa mémorisation, sa méditation et son étude. Trouvez-moi un chrétien qui fait toutes ces choses-là régulièrement et avec ferveur et avec zèle. C'est là qu'on voit qu'on a des manquements. Et après ça, la prière. Prière individuelle, prière de couple, prière familiale, prière, soirée de prière. Après ça, l'assistance à nos assemblées. Ici, on a 2 assemblées par semaine. On est 33, 34 membres actuellement, puis on est 10 ce soir. Est-ce que c'est normal? Ça va être aux gens à répondre à leurs affaires quand ils vont comparaître devant Dieu. L'assistance de nos assemblées, la communion fraternelle, on devrait saisir toutes les occasions que le Seigneur nous donne d'avoir la communion fraternelle. Déjeuner des dames, un jour on fera un déjeuner des hommes. Tous les moyens que Dieu nous donne pour se rapprocher, se comprendre, s'aimer plus les uns les autres. Et la troisième et la dernière, demandons au Seigneur de nous faire comprendre et apprécier tous les bénéfices, bénédictions et récompenses qui sont rattachés à sa crainte dans nos vies. Recherchons la croissance à tout prix. Et on va se joindre à David dans sa prière qu'il a exprimée dans le psaume 86, verset 11. Rends mon cœur un pour craindre ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je te glorifierai, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Que notre Seigneur, notre grand et glorieux et merveilleux Seigneur, nous fasse croître dans la crainte de sa personne, par sa grâce et pour sa gloire. Amen, amen et amen.
Amen.